Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 4 novembre 2021. Et si ça continue comme ça, je pense que la prochaine émission, je vous la fais directement depuis mon lit, parce que là, c'est pas top. Alors, j'ai pas le Covid apparemment, mais en tout cas, visiblement, il y a encore d'autres maladies qui existent dans ce monde, parce que la grève, la grippe et tout ce genre de choses, ça existe encore. Et je suis en plein dedans. Anyway, c'est pas pour ça qu'on est venu ce matin. Le point de la journée, le truc de la journée, l'événement de la journée, ou plutôt devrais-je dire le non-event de la journée, eh bien, hier, c'était la Fed. Oui, la Fed a parlé. Alors, au cas où vous étiez sur une île déserte depuis 6 mois, que vous aviez aucune connexion à Internet, aucun réseau, rien. Ça fait 6 mois qu'ils nous préparent gentiment que un jour, peut-être, ils vont faire un tapering, que un jour, peut-être, ils vont commencer à enlever un petit peu, mais un tout petit peu du soutien qu'ils offraient au marché et à l'économie. Ça faisait 6 mois qu'ils nous disaient que ça allait venir. Vous inquiétez pas, ça va venir. Ce sera bientôt là. Nous allons agir. Bientôt, c'est pour demain. Un jour, peut-être. Bref, c'est arrivé, ça fait 3 semaines qu'on savait quasiment, une quasi-certitude qu'ils allaient agir à partir d'après le meeting de la Fed du 3 novembre. C'est chose faite, ils ont annoncé hier qu'ils allaient réduire leurs achats obligataires toutes les semaines de 15 milliards. Alors oui, comme ça peut paraître beaucoup, comme ça peut paraître un mouvement tranché, mais en fait, c'est que dalle, c'est vraiment de l'homéopathie. Donc en gros, qu'est-ce qu'ils font toutes les semaines? Ils vont réduire de 15 milliards. Ça veut pas dire qu'ils achètent plus, ils continuent à injecter du pognon dans le marché de toute façon. C'est ça qu'il faut bien comprendre derrière. C'est pas simplement on arrête, on ralentit, donc on achète moins. Mais d'ici la fin du mois de juin 2022, ils auront quand même encore injecté indirectement, donc augmenté le bilan de la Fed de 400 milliards de plus. Donc ça un peu moins, enfin, soustrait de ces 60 milliards par mois, mais globalement, vous voyez, ça réduit gentiment, mais on va continuer quand même à acheter gentiment ces milliards tous les mois. Donc ça continue à offrir un soutien moindre, soit, chose à laquelle on s'y attendait, franchement, par rapport aux chiffres, par rapport aux déclarations des uns et des autres, par rapport aux trimestriels. On peut pas décemment dire que l'économie est dans un tel état que la Fed doit continuer à soutenir massivement. Donc ils réduisent tout doucement, mais attention, ils ont mis un conditionnel à l'intérieur. Si jamais l'économie venait à ralentir à nouveau ou à mal tourner, ah, patatatata, du coup, ils vont arrêter de réduire et puis ils pourraient même réaugmenter si besoin était. Donc, en gros, ils y vont vraiment à coup, à dose homéopathique, vraiment, ils vont à tout petit coup, à coup de granulé, dire, ok, ben, gentiment, puis si ça continue à aller, on enlève encore un petit peu, puis sinon, on remet un peu. Donc, voilà, on voit que c'est vraiment du fine-tuning et rien de tranché dans toute l'histoire. Le marché s'y attendait clairement et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on a terminé au plus haut de tous les temps. 3e séance de hausse consécutive sur le S&P 500, 5e séance de hausse sur le Nasdaq. En France, on a battu les records d'altitude, même si on n'a rien foutu en Europe hier dans la journée, puisque qu'est-ce qu'on faisait? Ah ben, on va attendre la Fed ce soir. Donc, du coup, ils ont attendu la Fed toute la journée, il s'est rien passé, mais le CAC 40 a battu un record historique. Bref, tout monte, tout va bien, et puis alors, on a dit en gros, l'impact de la Fed, eh bien, on s'en fout, quoi. Donc voilà le résumé de la journée hier. Après, ça se base sur quelques résultats trimestriels, des bons chiffres de Qualcomm hier soir, des mauvais chiffres chez Roku hier soir également. Bref, globalement, pas grand-chose de spécial. Il n'y a pas eu d'événements spécifiques du type Avis qui prend son 50% dans la journée. C'est plutôt calme. Tranquille, une petite journée, on était content de voir que la Fed sera là pour nous soutenir encore et encore et que ça va durer un petit moment. Aujourd'hui, si on regarde un petit peu les futurs, eh bien on sait que à plus ou moins, on s'attend à une hausse des taux de 0,25 en juin 2022, donc on aura le temps d'en reparler d'ici là, et puis une deuxième hausse des taux de 0,25 à la fin de l'année 2022. Mais pour ça, il faudra bien voir un petit peu la suite des événements, le comportement économique global des États-Unis. Alors, il faudra surveiller un petit peu tout ça ces prochains temps. D'ailleurs, on va pouvoir se concentrer directement sur autre chose, puisqu'à partir de demain, on aura déjà les non-farm payroll, les chiffres de l'emploi américain qui vont sortir. Alors, d'habitude, on en parle depuis le lundi jusqu'au vendredi, mais comme là, on était occupé un peu par la Fed et le tapering, eh ben, du coup, on va commencer à en parler seulement à partir de midi, je pense, aujourd'hui, pour se dire, ah oui, demain, il y aura les chiffres, donc il faut faut avoir les chiffres des NFP, des non-farm payrolls, qui n'étaient pas super super le mois dernier. Donc il faut voir un petit peu comment ça va se passer. Je pense que s'ils sont nouveaux pas super, on va dire oulala, peut-être qu'ils vont ralentir le tapering. Enfin bref, ce qu'il faut retenir d'aujourd'hui, c'est que les marchés étaient rassurés, se foutaient totalement de ce qu'avait annoncé la Fed, c'était clairement pricé, et on est soulagé dans le sens où on va encore nous soutenir pendant un bon moment. Ah oui, puis il y a un truc qu'il faut pas oublier, c'est que Monsieur Powell a quand même expliqué que l'inflation, selon lui, restait transitoire. Alors, il y a un gros truc qu'il faut essayer de débattre aujourd'hui, c'est quelle est la notion de transitoire, hein, parce que une inflation transitoire, elle peut être transitoire pendant 3 semaines ou pendant 3 ans. Hein. Pour l'instant, selon lui, elle est toujours transitoire. D'habitude, il disait qu'il y avait l'inflation était sous contrôle. Là, c'est un peu moins évident quand même. Mais donc, voilà, c'est un des sujets qu'on va rediscuter. On verra aussi avec les chiffres de l'emploi demain comment le marché va le percevoir. À propos de l'inflation, justement, hier, on a eu une bonne nouvelle. Le pétrole s'est pété la figure. Enfin, pété la figure. Il a perdu 3-4 dollars hier dans la séance parce qu'il y avait une conjonction de pas mal de choses. Des inventaires beaucoup plus élevés que prévu. L'Iran qui veut discuter par rapport à leur programme nucléaire. Alors, ça fait toutes les 2 semaines. Hein, ils font des allers-retours. Je viens pas. Après, de l'autre côté, on a aussi eu l'OPEP qui aurait soi-disant une pression pour augmenter, ouvrir les robinets, parce que finalement, il y a des gouvernements qui ne produisent pas de pétrole, qui aimeraient bien que ça baisse un peu, parce que ça devient un petit peu problématique, ne serait-ce qu'au niveau de la pompe. Donc, et pour l'instant, le pétrole est à 80 dollars, il a bien baissé hier, c'est juste temporaire pour l'instant, visiblement, mais c'est aussi un des canaux qu'il faudra surveiller par rapport à l'inflation, parce que c'est vrai que on en parle très peu quand même, mais le pétrole est un vecteur d'inflation. On disait à l'époque, et je parle de ça il y a 10-15 ans en arrière, on disait quand le baril passe les 100 dollars, c'est inflationniste clair et net, mais surtout c'est un signe de récession. Donc du coup, pour l'instant, on n'en parle pas parce qu'on est qu'à 80 dollars, on a encore un bout de chemin à faire. Mais disons qu'à un moment donné, je pense qu'autour des 90-92 dollars, si le pétrole va jusque-là, on va commencer à parler d'un risque de ralentissement économique massif par rapport au pétrole. Surtout que si vous regardez un petit peu dans le passé, la problématique, c'est que quand le pétrole monte, le prix à la pompe, il monte. Et quand le pétrole baisse, le prix à la pompe, il baisse beaucoup moins. Ensuite, le pétrole remonte et puis le prix à la pompe, il remonte aussi, donc beaucoup plus. Puis après, le pétrole rebaisse, mais le prix à la pompe, il baisse un tout petit peu. Puis finalement, sur les années, eh bien, vous avez le litre d'essence qui a doublé, alors que le pétrole, il a de loin pas doublé. Et donc, il y a vraiment une dichotomie de ce côté-là qui pose aussi un problème inflationniste, clair et net, même si dans certains pays, il y a beaucoup de taxes sur le prix de l'essence. Mais ça pose quelques problèmes qui pourraient nous revenir ces prochains temps, mais on n'en est pas encore là. Pour l'instant, on se félicite de ce non-event hier soir de la Fed. Donc aujourd'hui, si vous lisez un petit peu les médias financiers, alors il y a plein de mini-histoires sur les sociétés qui ont publié des chiffres, blablabla, mais rien de très important. Par contre, il y a 95% des médias qui sont occupés avec des nouvelles sur le tapering, l'analyse de ce qu'a fait la Fed, l'analyse de ce que va faire la Fed. Bref, en gros, c'est du vent, un gros brassage d'air. Aujourd'hui, si vous avez le Wall Street Journal en entier, vous pouvez quasiment le mettre dans le destructeur à papier, ça n'a strictement aucun intérêt. Donc c'est vraiment 100% Fed aujourd'hui. On se concentre là-dessus, on va en discuter un petit peu, puis je pense effectivement dans quelques heures on aura oublié le sujet de la Fed et on pourra se concentrer sur autre chose. Donc du coup, je passe à la question du jour. Et la question du jour, je vous rappelle, c'était en 3 étapes. On revient sur la 3e question qu'on me demandait, donc après l'intelligence artificielle, après, je sais plus ce que c'était le premier, mais le dernier, c'était le green investment. Alors le green investment, eh bien, c'est assez complexe, large et compliqué. Ces dernières années, on a eu une vague verte qui est arrivée sur le marché. Les gens sont arrivés massivement en se disant qu'il fallait changer notre manière d'investir et il fallait être plus responsable. Hein, on est en pleine COP26, donc tout le monde veut être green, tout le monde veut qu'on soit propre pour la planète et puis qu'on évite qu'en 2150, eh bien, la planète soit complètement détruite. Enfin, globalement, de toute façon, on ne sera pas là, mais peu importe. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a vraiment une volonté aujourd'hui dans le monde de l'investissement, aussi pour se donner bonne conscience, de vouloir passer à ce qu'on appelle le green investment. Donc du coup, on a créé des critères, on a mis des notes sur certaines sociétés, et puis en disant, ben voilà, eux ils sont green, eux ils sont moins green, eux ils sont pas green du tout. Et donc du coup, on cherche un petit peu à comment investir dans tout ça. Il est prouvé avec le temps que finalement, si vous avez des très bons critères ESG, donc vous êtes une boîte qui est responsable par rapport à l'environnement, c'est pas que vous avez une moins bonne performance, donc c'est pas négatif en tout cas, ou en tout cas pas moins bien d'aller investir dans une boîte qui est ESG ou qui n'est pas ESG. Donc c'est assez complexe dans tout ça. Maintenant, à partir de tout ça, quand vous regardez aujourd'hui, si vous voulez investir dans du green, eh bien vous avez deux choix. C'est soit vous allez faire de l'investissement ESG. Donc là, c'est à ce moment-là, mon conseil, ce sera d'aller chercher des fonds qui sont dédiés à la finance sustainable finance, comme on dit, quoi, la finance responsable, la finance durable. Là, vous avez plein de produits, plein de fonds, plein d'ETF. Je peux pas faire la liste ici. Ou alors, vous avez une autre solution. Eh bien, c'est tout ce qui est énergie. Parce qu'une des grosses problématiques, finalement, de cette transition énergétique, c'est de passer à une énergie qui est plus verte, plus propre, puisque évidemment, ce qui pollue aujourd'hui massivement, c'est tout ce qui est pétrole. Et donc aujourd'hui, ce qu'on va regarder, ce qu'il faut regarder, si vous voulez, c'est quels sont ces secteurs. Alors là-dedans, vous avez l'éolien, vous avez le solaire, vous avez toutes ces nouvelles technologies qui sont green. Et ça, il y a plein d'ETF qui existent aujourd'hui qui vous permettent de jouer ces thématiques énergétiques. Donc de nouveau, comme je vous l'ai dit plusieurs fois ces deux derniers jours, si vous allez chercher une seule boîte qui fait du solaire, c'est toujours très délicat parce que du coup, vous vous exposez évidemment massivement au risque d'une seule boîte. Et c'est pas évident aujourd'hui parce que c'est vraiment une phase de départ au niveau de ces nouvelles énergies. C'est très compliqué de trouver la boîte qui va être l'Apple de l'énergie verte de ces 20 prochaines années. Donc de nouveau, ma recommandation, ce sera de passer via des ETF ou des fonds globaux sur ces thématiques énergétiques. Alors là, vous avez un ETF qui s'appelle très originalement le Wind, qui joue toute la thématique de l'éolien. Vous avez le TAN, qui joue toute la thématique du solaire. Donc voilà, ça vous donne 2-3 idées dans cette direction-là qui vous permettent d'aller investir dans cette thématique green. Mais encore une fois, contrairement à la thématique, par exemple, de l'intelligence artificielle, c'est très, très large l'investissement vert et responsable. Donc, si vous voulez aller dans du responsable vraiment global avec une vraie analyse de fond, avec une sélection de titres qui sont des titres vraiment responsables dedans, enfin, on s'entend bien, eh bien, à ce moment-là, il faut aller chercher des fonds d'investissement. Il y a plein de fonds d'investissement qui sont sur cette thématique-là et eux feront le boulot à votre place et vous aurez cette partie de votre portefeuille qui sera complètement allouée à cette thématique verte, transition énergétique, amélioration finalement de la qualité de l'air, décarbonisation, et tout sera groupé dans ce fonds d'investissement. Donc je ne sais pas si aujourd'hui l'idée intelligente ce serait de faire du stock picking. Je pense pas vraiment parce que de nouveau il y a tellement de boîtes qui sont entre guillemets green mais qu'on se rend même pas compte qu'ils sont en train de faire des efforts. Même certaines pétrolières sont en train de basculer dans quelque chose de beaucoup plus green. Prenez Total par exemple qui a une partie de leurs bénéfices, une partie de leur chiffre d'affaires qui vient énormément de plus en plus de l'énergie verte. Donc du coup, c'est pas forcément aussi moche que ce qu'on peut imaginer quand on parle spontanément de pétrolière, parce que quand vous parlez de pétrolière à quelqu'un qui fait de l'investissement responsable, il y a les cheveux qui se dressent sur la tête. Donc aujourd'hui, il y a même certaines boîtes qui font partie de ces portefeuilles green parce que finalement ils sont en train de partir de changer leur business model pour les années à venir. Donc voilà, pour résumer, soit vous jouez la clean energy où là vous trouverez plusieurs ETF clean tech. Je vous mets quelques noms qui apparaissent sur l'écran ici, quelques symboles qui vous permettent de jouer la clean energy, ou bien alors vous allez taper dans des fonds globaux qui s'occupent de ça. Et à mon avis, si vous voulez vraiment faire de l'investissement responsable, c'est en passant par des fonds où les gens font de l'analyse complète, où ils vont vraiment chercher dans le détail comment ils peuvent améliorer cette relation investissement et transition vers un investissement plus vert. Voilà, en gros, c'est tout ce qu'il y avait à vous raconter aujourd'hui. J'espère que demain, on va repartir dans un mood un petit peu normal, parce que finalement, maintenant qu'on a une autre Fed, on va pouvoir passer à autre chose. En tout cas, pour l'instant, les marchés continuent de se comporter relativement bien, voire très très bien. C'est très calme sur le secteur des cryptos. On notera seulement au passage que JP Morgan a réité son objectif de 146 000 $ sur le Bitcoin. Le Bitcoin est à 62 000 pour l'instant. Et en même temps, JP Morgan a également annoncé que le Bitcoin était officiellement devenu l'or numérique. Autrement dit, le hedge parfait contre l'inflation. Donc, si les gens jouent l'inflation, ce qu'on voit arriver aujourd'hui, évidemment, eh bien, ils vont devoir encore acheter du Bitcoin. Donc, le Bitcoin va aller à 146 000. Donc là, on a oublié les 100 000 à Noël. On parle de 146 000 sur le Bitcoin. Voilà. Donc, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote Suite si ce n'est pas encore fait. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager, ne serait-ce que parce que je le fais avec 39 de fièvre. Et puis, je vous retrouve demain à la même heure et au même endroit. J'espère avec un petit peu moins de bourdonnement dans les oreilles et puis d'obstruction dans tout ce qui est système ORL. Passez une très bonne journée et à demain. Bye bye.